Bonjour à tous, bon dimanche. Vous avez bien fait de vous lever ce matin et de venir dans la cathédrale parce que nous avons trois intervenants d'abord très sympathiques et puis surtout qui sont très intéressants si j'en juge par leur parcours. Donc on va passer une heure assez concentrée puisqu'effectivement il faut qu'on quitte les lieux à 10h20, mais une heure je crois vraiment intéressante. Je vais vous présenter donc ces intervenants. À ma gauche, immédiatement, Lise Henrique, vous êtes maître de conférence, maîtresse de conférence.
Je dis maître.
Maître de conférence à l'Institut catholique de Toulouse. Vous avez comme centre d'intérêt des thématiques tout à fait importantes dans la culture contemporaine, qui touchent à l'information. Je crois savoir que vous avez fait votre thèse sur le docu-fiction à la télévision, c'est-à-dire ce mélange de fiction et d'information documentaire. Déjà, on est dans deux domaines qui ne sont pas censés se marier. Vous avez étudié ça de près, notamment à la télévision française. Et puis, vous vous intéressez à ce que l'on appelle en bon français les fake news. En français un peu meilleur, l'infox, ce mélange d'information et d'intox. Au fond, ce qui est un peu, si tu peux me permettre, ce qui est un peu ce qui est à la malbouffe et à la gastronomie. Voilà. Juste à côté de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Delafosse. Vous êtes étudiant au CELSA, mais ce n'est pas à ce titre que vous êtes parmi nous, puisque vous avez fondé, donc très jeune, votre premier média, Amen, dans un but d'évangélisation. Ce média que vous pouvez retrouver notamment sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok aussi, vous propose de l'information, de la catéchèse, des témoignages, de l'actualité. Voilà, en pleine Coupe du Monde de rugby, vous avez choisi ce qu'on appelle, dans le jargon du métier, un sujet d'angle avec l'histoire de ce rugbyman écossais qui ne veut pas jouer le dimanche parce qu'il veut se rendre à la messe. Voilà un sujet original et une façon de nous introduire à la radicalité de la foi et à sa singularité dans la société dans laquelle nous sommes. Sujet donc très intéressant. Et puis Floriane de Malestroit, vous avez une formation très très solide. Je crois que vous avez fait l'EDEC, une grande école de commerce. Vous avez déjà fait beaucoup de choses. J'ai regardé vos engagements, votre volontariat au Chemin Neuf, votre implication dans l'association À Bras Ouverts, qui accompagne des personnes porteuses de handicap. Vous avez été, je crois, aussi visiteuse de prison. Vous avez été colocataire à Lazare. Bon, j'arrête là, c'est déjà beaucoup. D'autant que ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Sur LinkedIn, je vois que vous êtes Floriane D, artiste, influenceuse, on y arrive, et consultante en com. Et sur Instagram, vous êtes Floriane.dem, on dit comment? Dem, D-E-M, D-E-M. Floriane.dem, comédie, humour, interview et autres passions. Donc ça nous ouvre beaucoup de possibilités. Pour ceux qui n'auraient pas eu encore l'occasion de regarder, allez-y, enfin un petit peu après, hein, à 10h20. Ce sont des sketchs assez décalés, vous maniez l'autodérision, ce qui n'est pas si fréquent dans le monde catholique où on n'a pas toujours le sens de l'humour, et en particulier sur des sujets qui semblent pas vraiment s'y prêter. Par exemple, l'adoration eucharistique, c'est pas le sujet de sketch qu'on attend le plus immédiatement. Voilà. Donc, je vais d'ailleurs, je vous ai présenté un petit peu, mais je voudrais vous demander, Floriane, au fond, pourquoi vous êtes lancée là-dedans? Qu'est-ce qui vous a amené, à côté de votre métier, de votre formation solide, le marketing, la com, à vous lancer là-dedans sur ce sujet un peu casse-gueule de l'influence décalée un peu par l'humour?
Bonjour à tous. Donc en fait, j'avais un compte Instagram comme beaucoup de jeunes notre époque, qui était pour mes amis, pour mes proches, où je postais des photos classiques de mes vacances, de ce qu'on veut. Et puis, donc j'ai effectivement travaillé dans la communication pendant plusieurs années. Bon, pas non plus 40 ans, mais bon, j'avais 2-3 ans d'expérience derrière moi, on va dire. Et en fait, j'ai pris la décision de prendre une année pour Dieu avec la communauté du Chemin Neuf, qui est une communauté charismatique, de spiritualité ignatienne et à vocation œcuménique. Voilà, beaucoup de choses aussi dans cette communauté, beaucoup de richesses. Et donc j'ai commencé par 2 mois en abbaye où je n'ai pas du tout utilisé mon téléphone pour le coup. C'était un choix personnel. Mes proches qui voulaient communiquer avec moi utilisaient des lettres. Voilà. Et en fait, après les 2 mois et demi passés en abbaye où j'ai notamment pu discerner aussi les questions de vocation, etc., j'ai été envoyée en mission pour le pôle dédié aux jeunes de la communauté basée à Puteaux. Et donc à ce moment-là, j'ai récupéré mon téléphone et je me suis dit, à quoi vont me servir mes réseaux sociaux ? Et je me suis dit, ça peut être sympa en fait de partager à mes proches mon quotidien. Et si ça peut intéresser d'autres personnes, peut-être que ça peut aussi évangéliser et donner une réalité qui n'est pas forcément commune pour des jeunes de notre époque, d'être en bénévolat, de prendre une année pour Dieu, etc. Et donc j'ai passé mon compte en public et en fait j'ai commencé à faire des contenus qui étaient pas tout de suite forcément des sketchs, mais je reprenais des tendances des réseaux sociaux, notamment TikTok qui fonctionne beaucoup par des sons, des musiques, des chorégraphies, ce genre de choses, et je détournais un peu ces choses-là pour leur donner une petite saveur chrétienne, on va dire, et ça a bien pris, et voilà, ça s'est fait comme ça, un peu parce que j'avais à cœur, une fois que j'ai retrouvé mon téléphone, de le faire pour des choses qui valaient le coup, mais c'est pas non plus quelque chose qui a été discerné pendant un an, ou voilà, comme Paul pour faire la transition, qui a décidé de prendre une année de césure pour ça.
Ah ben, je crois qu'elle vous a passé le micro.
Merci Floriane pour cette transition. Tu peux prendre la place du journaliste si tu veux. Bonjour à tous. Un plaisir d'être ici à Toulouse, découvrir la belle cathédrale où il fait assez chaud étonnamment. Oui, moi ça a été le fruit d'une longue réflexion, mais en effet j'ai pris une année de césure l'année dernière donc pour créer ce média dont on vous a parlé, qui s'appelle Amen. Pour moi c'est vraiment la rencontre entre mon chemin spirituel et mon chemin professionnel. Donc moi c'est vers 15-16 ans que j'ai eu une grosse période de foi. J'ai vécu des très belles confessions, des très beaux moments dans ma paroisse, qui est une paroisse de l'Emmanuel. Donc à ce moment-là, j'ai compris que Dieu serait vraiment le centre de ma vie, que je ne pouvais pas me passer de lui, et surtout que c'était une richesse à partager. Jusque-là, j'en avais un peu honte, parce que j'ai toujours été dans un établissement public avec énormément de gens qui n'étaient pas croyants. Donc j'avais vraiment l'école avec mes amis du public et où je cachais ma foi, et puis ma vie de foi qui était un petit peu enterrée jusqu'au lycée, mais avec le scoutisme, l'aumônerie, etc. Et donc quand le Christ est devenu le centre de ma vie, et notamment j'ai eu un gros appel à ma confirmation à travers la figure de Saint Paul à évangéliser, mon saint patron du coup, donc voilà, je me suis dit, l'évangélisation c'est peut-être mon charisme, j'ai peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et en parallèle, enfin, j'avais toujours aimé énormément l'image, donc je suis entré dans le monde de la communication un peu par l'image. Se sont croisés ce goût de l'image, cette passion pour la communication et la nouvelle passion pour le Christ. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. D'autant plus que j'avais cette frustration dans mon établissement d'avoir énormément de musulmans qui parlaient très simplement leur foi, et je trouvais ça beau, je trouvais ça admirable que tout le monde, que par exemple pendant une période de ramadan, tout le monde parle du ramadan, tout le monde sache ce que c'est et tout le monde respecte. Je trouvais qu'il y avait un profond respect, et je trouvais pas ce respect pour les catholiques, je trouvais pas cette admiration des gens pour les catholiques, peut-être aussi parce que justement moi je n'assumais pas du tout ça, et j'ai compris que c'était en assumant les choses, en étant fier de ce que je vivais, que j'allais donner envie aux gens de s'y intéresser et que les gens allaient respecter. Quand on n'est pas fier des choses, évidemment, les gens ne respectent pas, quoi. Donc, ce projet, au début, était assez flou, mais j'ai assez vite eu l'idée de faire une chaîne YouTube Donc là, c'était fin de mes années lycée, début des années d'études. Mais j'étais très engagé donc, dans ma paroisse, j'animais la chorale, j'étais dans une association qui faisait des maraudes pour les SDF, j'avais le scoutisme, un groupe d'aumônerie. Donc en fait, je n'avais pas vraiment le temps de me lancer à plein temps là-dessus. Et je me suis dit, si je me lance dans cette mission, il faut que j'y passe du temps parce qu'il faut que ça soit vraiment qualitatif. Donc je ne peux pas faire ça à la va-vite. Et c'est donc l'année dernière que l'école m'a proposé, donc mon école de communication, m'a proposé de faire une année de césure. Généralement il y a peu de place et j'avoue que j'y croyais pas trop parce que je suis plutôt du genre à très peu mettre les pieds à la fac, désolé pour la maître de conférence. Et finalement il se trouve que cette année-là, peut-être signe du ciel, mais il se trouve qu'il y avait très peu d'étudiants qui ont demandé des césures. Donc la césure m'a été accordée et en fait je l'avais vraiment demandée dans l'optique de mener ce projet. Donc une fois qu'elle m'a été accordée, je me suis dit c'est parti Seigneur, on y va et puis on verra les fruits qu'il y a apportés en ligne.
En tout cas, c'est déjà très pro, hein, si je puis me permettre.
On essaye.
Et vous disiez que quand vous étiez au lycée, dans l'enseignement public, ce n'était pas forcément évident de se situer en catholique. Là, vous avez un média qui s'appelle Amen et vous êtes dans une école de com. C'est devenu évident ou ce n'est pas évident?
Alors, c'est jamais évident parce que là, quand je suis retourné à l'école, justement, j'ai fait ma rentrée il y a 2 semaines. Tout était en ligne, donc en fait, je n'étais pas confronté aux gens de mon école, etc. Je ne les ai pas vus, en fait, finalement, à part mes amis, mais qui comprennent bien mes choix. Mais là, c'est vrai que quand j'ai dû dire, pendant qu'on faisait les tours de table, des stages, des expériences professionnelles, j'ai monté un média catholique, sachant que c'est une école très étudiante,
Ça a jeté un froid ?
Ça n'a pas jeté un froid, mais je pense que ça suscite la curiosité. Je ne sais pas si ça véhicule quelque chose de bon pour tous. Peut-être que certains sont un peu fâchés avec l'Église aussi. Mais au moins, ça amène des questions et des discussions après, par la suite. Donc même si ce n'est pas évident, quand on est fier et quand on est étiqueté comme chrétien et fier de l'être, les gens viennent plus spontanément parler. Donc voilà, j'en fais une force aujourd'hui, même si ce n'est pas compris par tous.
Très bien. Alors, Lise, j'aurais en fait, au fond, 2 questions à vous poser. D'abord, comment vous êtes intéressée à cet univers des fake news, l'information, divertissement, et du coup aussi comment vous voyez ce monde un peu mixte lui aussi entre l'information et l'influence qui est celui des influenceurs justement.
Déjà bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc déjà quand j'entends effectivement vos 2 interventions, c'est vrai qu'on note un professionnalisme déjà. Souvent on peut avoir tendance à penser que la communication, et ce que j'explique notamment à mes étudiantes et à mes étudiants, il suffit juste de bien s'exprimer, il suffit juste d'être à l'aise à l'oral et on est bon en communication. Non, la communication ce n'est pas ça, il y a des règles à respecter, il y a une stratégie à mener et on le voit très bien, c'est un projet que vous avez mené et vous avez pris le temps de le mener pour qu'il soit qualitatif. Donc déjà, je trouve que c'est intéressant de le préciser. Et pour revenir à votre première question, pourquoi j'ai abordé le thème des fake news? Donc effectivement, ma thèse portait sur le docu-fiction, c'est-à-dire cette frontière qui est très ténue entre les images d'archives, donc qui relèvent plutôt du documentaire, et la fiction, avec ce jeu d'acteurs, etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de prolonger mes recherches liées à ma thèse sur les fake news, puisqu'on retrouve notamment les fake news, et ça rejoint un peu, beaucoup sur les réseaux sociaux numériques, et notamment sur Twitter, hein, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux numériques, on va en retrouver plusieurs, avec des objectifs différents, je pense qu'on en parlera juste après, et notamment les fake news, on va les trouver sur Twitter. Et j'ai trouvé intéressant, d'un point de vue en tout cas un peu universitaire, d'essayer d'apporter des clés pour décrypter ces fake news, d'où le départ de mes recherches.
Merci. Alors, évidemment, en préparant cette rencontre, je me demandais, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un influenceur? Alors, je suis allé sur le Robert, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé, parce qu'on m'a dit un influenceur, c'est une personne qui a un grand pouvoir d'influence. Donc, on tourne un petit peu en rond. Du coup, je vous pose la question, c'est quoi, Paul, être influenceur?
Ok.
On verra ce que c'est qu'être influenceur catholique, ce qui est encore une autre question. Ouais. Il y a déjà des questions qui arrivent et qui sont très intéressantes.
Peut-être que je commencerai par parler de l'influence, si on dit qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui influence. L'influence, je la vois comme le fait d'agir dans la perspective de susciter une action chez l'autre. Alors il y a des choses qui agissent par essence sur nous, par exemple, je sais pas, la loi de la gravité, par exemple, ça va influencer notre manière de nous déplacer. Voilà, il y a des choses qui ont une influence par essence. Après, si on parle de l'influence dans les rapports humains, je pense que c'est plus s'immiscer dans la liberté de l'autre, quelque part, dans son discernement, dans sa liberté de faire des choix. Pour soit le conforter dans ses choix, soit le dissuader. Enfin, ça peut être.
Mais alors, c'est de la manipulation.
La différence avec la manipulation, je pense que manipuler, c'est vraiment du coup mettre la main, étymologiquement parlant, mettre la main sur justement cette liberté de l'autre, essayer de la réduire au maximum. Et je trouve qu'il y a aussi la ramener à soi. Manipuler, c'est faire les choses dans son intérêt. Je pense que c'est pas forcément le cas de l'influence. Et si je pouvais prendre un exemple, par exemple, vous avez un dériveur, disons qu'il y a la personne qui est à la barre, l'influence, ça peut être juste le fait de souffler, agir par le souffle. Manipuler, c'est vraiment prendre la barre, quoi. Peut-être qu'on peut faire la distinction comme ça, même si la limite, je pense, est assez poreuse, on va dire.
Floriane, votre définition influenceuse, pour moi, c'est... Allez, la mode, le voyage, le tourisme, la gastronomie.
Enfin. Vous n'avez pas tort. moi, une définition, enfin, je pense à mon usage personnel, parce que je suis beaucoup d'influenceurs. Donc pour moi, c'est des personnes. Après, il y a des médias, mais pour moi, les influenceurs, c'est plus des personnes qu'on va suivre, dont on va... en fait. Quand on arrive sur un réseau social, on a le choix entre plein d'endroits où aller. On va avoir certains comptes où on va avoir envie d'aller plus souvent. Et donc, moi, les influenceurs que je suis, c'est des personnes dont j'apprécie le point de vue. Donc, ça peut être quelqu'un que je suis parce que j'apprécie les recettes qu'il propose, quelqu'un que j'apprécie parce que même si je ne suis pas maman, je vais aimer suivre du contenu sur des personnes qui ont des enfants, qui montrent une certaine manière d'éduquer. Donc, en fait, il y a vraiment tout type d'influenceurs, tout type de domaine. Je suis aussi beaucoup d'influenceurs dans le domaine de l'humour, dans le domaine de la foi, en fait, tous nos centres d'intérêt. Et pour moi, ça va être presque parfois comme des amis. On a certains amis qu'on trouve qu'ils se débrouillent bien, qu'ils ont un point de vue clair sur les choses, etc. Donc pour moi, les influenceurs qu'on suit le plus, c'est même des personnes qu'on va avoir envie de suivre dans leur entièreté, c'est-à-dire pas forcément que par rapport au contenu qu'ils proposent, c'est-à-dire par exemple la cuisine ou l'humour, etc., mais aussi des gens dont on va aimer suivre un peu plus le quotidien. Et en fait, ça s'est permis notamment sur Instagram parce qu'il y a à la fois le contenu, donc on dit que les influenceurs sont des créateurs de contenu parce qu'ils filment des contenus, des vidéos, des photos, etc., qu'ils mettent en ligne. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les stories, qui sont des contenus plus éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures. Et en fait, là, en général, les influenceurs vont peut-être montrer des choses plus personnelles. Voilà, pour moi, l'influenceur, ça va de quelqu'un où on va aller de temps en temps sur le compte, on va apprécier le contenu, jusqu'à la personne où on suit vraiment tous les jours et qu'on aime suivre sous tous les aspects de sa vie.
C'est très clair, merci beaucoup. Peut-être alors, on a déjà des questions, mais Paul veut ajouter quelque chose.
J'ajouterais peut-être quelque chose. Sur l'influenceur, parfois on ne se décrit pas forcément comme influenceur, mais les gens nous décrivent comme tel. Je pense qu'il y a aussi la communauté, le fait d'avoir une masse qui nous suit, souvent à partir d'un certain chiffre. Enfin, c'est pas du tout concret, mais quelqu'un qui a 200 abonnés, on va avoir du mal à dire que c'est un influenceur, parce que ça reste dans un cadre plutôt privé. C'est aussi la logique de masse qui nous fait dire que quelqu'un est un influenceur quand il commence à être beaucoup suivi. Donc c'est pas forcément le fait de vouloir influencer les gens que... justement, le fait que les gens s'identifient aussi à une communauté qui suit une personne et serait. Enfin, il y a aussi l'influence des personnes. On se dit que le discours de cette personne est intéressant parce qu'il y a une communauté qui suit aussi.
Vous vous êtes fixé un objectif quantifié ? Vous voulez avoir un certain nombre de followers ? Vous avez déjà ça en tête ?
Quand j'ai commencé mon année de césure, donc le 15 septembre 2022, l'année dernière, pour me motiver, je me suis donné un objectif qui était 10 000 abonnés. Mais je ne savais pas ce que ça comprenait. Enfin, en fait, je suis sur trois plateformes, donc oui. Je ne savais pas si c'était en cumulé, etc. Mais je me suis dit, il faut pour que je continue et pour que ce
donc
projet
porte. Donc on redit les trois plateformes,
TikTok, YouTube et Instagram. Alors au début, ça n'a pas du tout fonctionné sur YouTube, par exemple. J'ai hésité à fermer la page pour me concentrer sur les formats courts. Et en fait, j'ai persévéré. Et il se trouve que ça a été le premier lieu où j'ai passé les 10 000 abonnés l'année dernière. Donc là, maintenant, j'en ai 20 000 sur YouTube. 10 000 ils sont passés sur TikTok il y a une semaine. Et là, on est à 200 abonnés d'avoir les 10 000 aussi sur Instagram. Donc si vous voulez aller vous abonner, n'hésitez pas. On y est presque.
Même question. Vous avez un objectif en tête ?
Non. Après, c'est sûr que quand on a une activité sur les réseaux sociaux, c'est effectivement important d'avoir un impact. Je veux dire, s'il y a aucun répondant et que ça grossit pas, c'est qu'à un moment c'est pas son charisme et que ça apporte pas forcément. Donc moi je trouve ça sain de se dire qu'effectivement, en tout cas on a envie de continuer si on voit que ça grossit quoi.
Alors je vais commencer à prendre quelques-unes des questions qui arrivent et qui sont très intéressantes et qui parfois d'ailleurs se contredisent ou manifestent des attentes assez contradictoires, ce qui montre tout l'intérêt du sujet. Je prendrai la première, telle qu'elle est formulée. Comment attirez-vous des croyants sur vos comptes ? Vous avez une stratégie pour séduire ?
En fait, je pense qu'on en revient à la question des charismes. Je pense qu'on a tous des choses, des domaines dans lesquels on a des facilités. Paul parlait de son goût pour l'image. Moi, j'ai un goût pour l'autodérision, l'humour, etc. Et je pense qu'il faut choisir l'angle dans lequel on est bon. Après, tout le monde n'est pas influenceur de la même manière. C'est-à-dire que Paul va avoir, par exemple, un contenu qui est centré sur la foi, etc. Moi, au tout début, j'avais un contenu qui était très centré sur la foi. Maintenant, moins. Mais je le manifeste peut-être plus justement sur les stories, les choses éphémères dont je vous parlais. Et en fait, il y a différents types d'influenceurs, chacun n'a pas la même vocation. Par exemple, il y a des gens qui vont attaquer frontalement le sujet de la foi et ça va attirer même des non-chrétiens. Et il y en a qui vont plutôt le montrer en à côté, mais du coup, ça va attirer justement des non-chrétiens qui vont se dire « Ah bah tiens, cette personne-là, elle est chrétienne ». Ou alors, au contraire, des gens qui suivent la personne parce qu'elle est chrétienne et qui disent « Ah bah tiens, bah justement, on a le droit de faire de l'humour un peu sur la religion, on a le droit de... » Voilà, donc je pense qu'il faut partir de son charisme et après, on n'est pas forcément obligé d'être direct. On choisit un petit peu aussi dans quelle mesure on a envie que son contenu soit centré sur la foi ou pas.
Alors c'est formidable parce que vous avez de vous-même corrigé la question que j'ai mal formulée. J'ai dit à peu près le contraire de ce que je voulais dire. Comment attirez-vous des non-croyants sur sur vos comptes ? C'est-à-dire, voilà, précisément, on est au congrès mission. Comment on fait de ces réseaux sociaux, de cette influence que vous cherchez à atteindre, un outil d'évangélisation ?
Ça va être dans la continuité du coup de la réponse de Florian.
Mais il y a quand même la partie séduction qui était dans la question qui est aussi intéressante.
Déjà, moi, je crois qu'on a vraiment le devoir en tant que catholique de chercher la qualité, chercher le beau. Moi, j'aime beaucoup l'image, mais pour moi, c'est important de faire des choses belles, des choses dans les codes du monde, dans les codes du temps, parce qu'on a un message qui est millénaire, qui a été couché sur papier. Maintenant, on a plein d'autres outils pour le diffuser. Ce message, il est à la fois actuel, à la fois pour certains, il n'est pas du tout dans l'air du temps. Il est à contre-courant, donc c'est une parole qui n'est pas évidente à porter. Si on veut la porter avec force, il faut savoir reprendre les codes du monde, reprendre ce qui est beau, attirer avec du contenu qui est qualitatif. Donc il y a une exigence de qualité. Et moi, je crois pas mal, j'en parlais hier en atelier, mais à l'accroche, à l'angle, comme vous avez dit. Vous avez donné l'exemple du rugby, par exemple. C'est trouver, notamment pour toucher les non-croyants, trouver des accroches, des angles qui leur parlent, prendre dans l'actualité ou dans les codes populaires des choses qui parlent aux gens. Je pense que je crois vraiment au sport pour ça, parce que c'est quelque chose de très populaire, tout le monde regarde le sport. Là, on a la Coupe du Monde de rugby, c'est pour ça qu'on s'est dit, ça va parler rugby, il faut qu'on fasse quelque chose sur le rugby, il faut qu'on trouve un moyen de faire du contenu en parlant de quelque chose qui, de toute façon, va faire parler de lui. Donc voilà, on avait fait cette histoire sur un rugbyman qui jouait pas le dimanche pour aller à la messe. Mais on avait fait la même chose au moment du Tour de France sur un cycliste qui avait refusé le dopage et qui, en fait, n'est pas catholique. Mais j'ai fait vraiment une vidéo, je ne sais plus combien elle dure, elle doit durer une dizaine de minutes. Il y a 8 minutes qui ne sont pas du tout sur la foi, qui sont sur l'histoire du cyclisme, le dopage dans le cyclisme, etc. Et 2 minutes de conclusion sur la liberté intérieure, sur qu'est-ce qu'en tant que catholique on en pense. En fait, la logique, c'était de dire, même dans un monde qui est gangréné, où le péché est généralisé, on a aussi, on doit s'émanciper de ça. Et les gens ont été assez touchés, en fait. Ils ont dit, je ne pensais pas tomber sur une vidéo chrétienne. Et la petite conclusion à la fin, j'ai beaucoup aimé, je me reconnais dans ses valeurs, etc. Donc parfois ça va être un peu dissoudre la foi dans autre chose, dans des codes populaires, dans des sujets d'intérêt généraux. Et puis après, ça peut aussi se faire de manière frontale. Alors peut-être que ça séduit plus les catholiques, mais je suis convaincu que filmer, faire des beaux plans de drone sur une cathédrale, ça parle aussi bien à un Français quelconque attaché à son patrimoine qu'à un catholique convaincu.
On n'est pas loin, là, des codes, justement, du docu-fiction. C'est-à-dire, on est dans la culture populaire et en même temps, dans l'idée de faire passer un message, donc une information.
Oui, là, ça rejoint vraiment ce qu'on disait au début de l'intervention. Vous maîtrisez le côté stratégique. On voit qu'il y a une stratégie. Et effectivement, pour attirer croyants ou non-croyants, utiliser des sujets d'actualité peut permettre, en tout cas, de convaincre. Puisque quand même, cette notion d'influence, on a quand même derrière cette notion aussi de conviction derrière. On essaye de convaincre, d'attirer, d'augmenter vos abonnés en tout cas. Je n'ai pas de compte Instagram, donc je parle pour vous, pour augmenter les abonnés. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et utiliser aussi, on voit aussi ce qui est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux numériques, je pense notamment à Twitter, ça va être tout ce qui est débat. On va lancer un thème un peu polémique, et ça va attirer des échanges, des interactions, des tweets, des retweets, et aussi générer de plus en plus de partages. Et en tout cas, ça peut permettre aussi un débat. Donc aussi, on voit que souvent les sujets polémiques sont souvent utilisés pour attirer le débat.
Pour aller un tout petit peu plus loin sur ce sujet, sous cet angle-là, comment vous faites pour aller chercher les gens qui sont en fait des gens loin de l'Église? C'est une question qui est posée. Vous évoquiez très rapidement la beauté d'une cathédrale qu'on filme avec un drone. Voilà, comment on va faire pour aller, à partir d'une position qui est chrétienne, assumée, il n'y a pas de doute là-dessus, aller chercher des gens qui sont le plus loin possible? Bref, une stratégie missionnaire.
Moi, ça repose pas mal sur les abonnés, en fait, que je considère comme des missionnaires. Je dis beaucoup qu'en fait, mon contenu, c'est du contenu à partager. C'est du contenu gratuit à partager abondamment. Et je pense que c'est aussi par le relais des personnes que ça a de l'impact. Donc, quand quelqu'un va partager une vidéo à un ami qui n'est pas croyant, qui est musulman, qui est en désaccord avec l'Église sur un sujet et que j'essaie de faire une vidéo un peu sympa sur le sujet, ça aura beaucoup plus d'impact dans la mesure où c'est relayé aussi par un ami en fait. Donc je pense qu'il y a déjà ce relais-là. Et puis après, c'est aussi les algorithmes et quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Moi, je pense qu'en tant que créateur, je me dis souvent ça. Je crée du contenu. Je sème, mais c'est un peu, je sais pas, pas forcément où ça va tomber. Même si moi j'essaie d'imaginer les cibles qui vont être touchées par ça, je le conçois pour que ça soit large, etc. Mais il y a une part de mystère, mais ça se concrétise aussi dans la vie réelle avec l'évangélisation. Quand on se met à chanter avec une chorale sur un parvis, on ne sait pas ce que ça sème dans les cœurs, et on ne sait même pas où ça tombe finalement. On ne sait même pas la portée de ce qu'on fait. Et c'est ça aussi que je trouve beau, c'est le fait de ne pas maîtriser tout ce qui peut se passer. Et puis même une vidéo que j'ai postée cette année, dans 10 ans, elle sera toujours sur YouTube, peut-être, j'espère. Et peut-être que quelqu'un tombera dessus à un moment de sa vie où il avait besoin d'entendre ce discours. Donc après, voilà, c'est un peu à la grâce de Dieu et de l'Esprit Saint pour que les gens tombent sur ces contenus quand ils en ont besoin.
Vous vous dites, je veux parler à des gens qui sont très loin, il faut que je trouve les mots pour aller rejoindre ces gens. Vous pensez à ça ou pas?
Moi, pas forcément. Moi, je m'attache à l'originalité et du contenu et essayer de trouver quand même de respecter des codes qui respectent les codes des réseaux sociaux. Et après, on espère qu'effectivement, le plus de monde voit le contenu. Et donc, je pense qu'effectivement, pour bien maîtriser les réseaux sociaux, il faut avoir conscience que c'est basé, comme disait Paul, sur des algorithmes. Et en fait, comment fonctionnent les algorithmes? C'est qu'ils vont montrer votre contenu à un petit groupe de personnes. S'ils voient que ce groupe-là réagit positivement, interagit avec votre contenu en mettant un like ou en mettant un commentaire, etc., il va le montrer à de plus en plus de personnes. Donc en fait, moi, quand je crée un contenu, j'essaie d'être originale, donc de pas forcément copier ce qui se fait, d'avoir sa propre identité, mais quand même d'essayer de repérer des petites astuces qui font qu'on attire vite l'attention et que la personne ne va pas, comme on dit, swiper ou scroller, c'est-à-dire passer au contenu suivant. Et je pense que ça, c'est des petites astuces pour attirer des gens le plus largement possible sans trop savoir où ça va aller, effectivement.
Alors, je vous disais des questions qui manifestent des préoccupations peut-être contradictoires. D'un côté, donc, cette question, comment on fait pour aller rejoindre des gens qui sont éloignés du message chrétien. Et de l'autre, une autre question, comment vous vous assurez que ce que vous dites est conforme à l'enseignement de l'Église? Alors, vous êtes pris peut-être entre deux feux. Peut-être que ce n'est pas évident à gérer ça.
Ben c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas de garde-fou entre guillemets. C'est ça qui est beau, c'est que chacun a sa place et tout le monde peut porter sa voix. Il n'y a plus besoin de la télé ou de la radio pour se lancer. Mais en même temps, il n'y a pas de garde-fou. Moi, en plus, ce que je fais, c'est de l'humour, donc c'est pas du premier degré. Donc, quelquefois, je peux faire des contenus où justement, on a l'impression que c'est pas conforme à la foi, mais c'est peut-être aussi pour montrer un comportement qui n'est pas conforme à la foi, pour faire réfléchir. Et je me suis confrontée parfois à des gens qui réagissaient à des contenus que je pouvais poster en croyant que c'était du premier degré. Et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que parfois les gens n'ont pas du tout de second degré. Mais c'est pas grave, il faut pas... En tout cas, je pense que quand on se lance sur les réseaux sociaux, il faut pas forcément avoir peur des critiques mauvaises. Mais par contre, c'est important d'avoir des gens autour de soi, parfois quand on a des hésitations sur des contenus, etc., qui peuvent peut-être regarder le contenu avant de le poster, pour s'assurer que c'est bien. Et puis évidemment, nos abonnés fidèles, au bout d'un moment, il y a trop de commentaires ou de gens qui font des retours négatifs ou qui, sur un contenu ou sur le contenu en général, je pense que c'est bien de les écouter.
Vous avez un sens très sûr de flairer la question suivante que j'allais poser, donc c'est remarquable. Et alors, une petite précision, peut-être j'ai vu que dans des commentaires parfois un petit peu agressifs, vous aviez employé la surenchère dans l'humour et dans l'autodérision ou dans la dérision, puisque je crois me souvenir qu'une fois vous avez proposé à quelqu'un d'aller recevoir des massages pour se détendre. J'ai pas vu ça sur un de vos posts.
Non, je me rappelle pas de ça. Ah oui, 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 oui.
Vous voyez, je connais mieux que vous ce que vous avez publié.
Oh là là. C'était voilà. Non, mais c'était effectivement ce qu'on appelle un hater. Donc c'est des personnes qui vont vous agresser. Je crois que c'était quelqu'un qui m'avait dit le ridicule ne tue pas. ça m'avait amusé. Et du coup, j'avais créé un personnage qui effectivement répondait à ce commentaire négatif, parce qu'en fait on peut isoler un commentaire et faire une réponse en vidéo sur les réseaux sociaux, c'est assez à la mode, et du coup moi j'ai fait ça et je me suis dit je vais montrer qu'on peut répondre justement avec humour, et je pense que c'est une bonne façon aussi de propager un message bienveillant.
Moi c'était plus pour réagir sur juste le point d'avant, ouais. Parce que c'est vrai que c'est une grosse question et ça fait toujours débat quand on voit un prêtre qui nous semble être un petit peu limite sur le discours de l'Église ou pas en phase avec ce qu'on connaissait. Ça fait beaucoup réagir, même on a un petit groupe entre influenceurs. Et voilà, c'est vrai que ça pose toujours question. J'avais animé une table ronde avec Monseigneur Rouget et qui me disait que on faisait tous partie de l'Église. C'est où est-ce qu'on met la limite à je suis l'Église, je suis représentant de l'Église, et mon discours est parfaitement celui de l'Église. Moi, je crois quand même qu'il y a une parole de l'Église institutionnelle qui réfléchit avec les conciles, etc., les synodes, voilà, donc qui est incarnée en France par la Conférence des évêques de France. Alors moi, il se trouve que je suis vraiment cette ligne-là, je suis tout à fait en phase avec l'Église, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et alors, on s'exprime hyper librement. Moi, je dis que c'est un projet d'église que je fais, mais je ne représente pas l'église institutionnelle. Je représente les chrétiens, les catholiques, mais je ne pense pas être, je ne peux pas représenter l'église personnellement.
Alors, j'aimerais quand même que vous réagissiez aussi à cette question de l'agressivité qui est posée dans les questions du public. Vous la ressentez, cette agressivité? Vous avez des haters qui vous attaquent, ça vous déstabilise?
J'ai la chance déjà d'être pas mal épargné, d'avoir une grosse communauté qui me soutient, donc ça c'est génial, et on se réfère à ça quand on a des doutes. Maintenant, je pense que les critiques, il y en aura toujours. Faut arriver à distinguer ce qui est de la critique constructive et ce qui est juste du tacle. Et en fait, il y a toutes les critiques sur l'agressivité autour de la foi. Les gens qui n'ont pas la foi, ils ne sont pas rejoints par le message, mais entre guillemets, ce n'est pas grave, ce n'est pas à moi de m'en préoccuper, c'est entre eux et Dieu. Moi, j'ai essayé de donner le discours de vérité. Je suis en vérité avec ça. L'Évangile me dit que je suis amené même à souffrir pour délivrer ce message. Donc, je m'en fiche. Si les gens sont agressifs, etc., tant mieux, gloire à Dieu. Maintenant, c'est plus quand il y a des contenus, quand il y a des personnes catholiques qui s'en prennent au contenu, souvent ça fait plus douter. Je me rappelle que j'avais fait une vidéo un peu à vocation humoristique. Je pense que c'est plus un truc où on peut se heurter aussi à l'agressivité des gens. Mais moi j'avais repris des phrases du Christ, les 10 meilleures punchlines du Christ, et j'avais repris à la manière de certains rappeurs. Et certains trouvaient ça scandaleux, que je modernise l'église, etc. Et donc des influenceurs de TikTok, que je ne connaissais pas du tout, mais catholiques, ont commencé à me tomber dessus en disant que je faisais honte à tout le monde, voilà. Alors que, selon moi, j'utilisais justement les codes du monde pour partager l'évangile. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est génial, c'est trop cool, qui ont aimé, et ça a permis de partager, parce que je faisais un petit commentaire sur cette partie-là, sur cette punchline, pour que les gens aient du contenu, que ça ne soit pas juste de l'amusement. Mais voilà, c'est plus ces commentaires-là qui vont toucher. Et forcément, on doit aussi se questionner, comme tu disais, si tout le monde commence à te dire que ton contenu, personne ne se reconnaît dedans, c'est peut-être qu'il ne représente pas l'Église et que tu es à côté de la plaque.
On aborde la question de la haine en ligne, de l'agressivité. Dans l'univers des fake news, c'est un univers qui fabrique en fait de la haine et qui a pour stratégie en fait de porter de la division. J'aimerais bien avoir votre regard sur ce sujet.
Oui, effectivement, alors on peut avoir deux types de fake news. Effectivement, on peut avoir des fake news où vraiment là il y a une intention. La fake news, il y a cette intention de blesser, de créer la confusion, de brouiller le discours. Et il peut arriver, on pense notamment, vous avez des fake news type, je pense, quand Le Parisien a fait sa une sur Xavier Dupont de Ligonnès a été retrouvé. Là, on était face à une fake news, mais vous vous en doutez, elle n'était pas intentionnelle de la part du Parisien. Là, le Parisien, il était plutôt à la recherche du scoop. Il est tombé sur cette information-là, donc il n'a pas pris. En tout cas, il n'a pas fait son devoir journalistique de vérifier les sources, de se rendre sur le terrain pour effectivement vérifier que Xavier Dupont-Ligonnès avait été bien arrêté à l'aéroport de Glasgow. Donc, inconsciemment, là, le Parisien a diffusé une fake news et il n'y avait pas cette... Il n'y avait pas effectivement cette intention. Mais on peut retrouver, vous avez par exemple en Macédoine, vous avez des gens qui sont payés pour fabriquer des fake news. Donc il y a aussi le travail des fake news. Pourquoi ? Parce que si les fake news, ça va créer du clic, ça va créer des retweets, des tweets, du partage, ça va créer des commentaires aussi. Donc qui dit création de clic dit aussi plus de la monnaie, plus on clique, plus effectivement ça génère des revenus. Donc il y a aussi ces deux côtés-là des fake news. Et effectivement, c'est ce qu'on disait précédemment, ça va créer des débats, ça va créer des tensions, et donc fatalement, on va aussi retrouver beaucoup de haters sur les réseaux sociaux numériques. Et je pense que la stratégie, je pense que c'est la bonne, je pense qu'il faut répondre à ces haters, pas les laisser commencer à diffuser de plus en plus les discours. Je pense que répondre, et répondre notamment avec l'humour, je pense que c'est une bonne réponse.
C'est pas toujours, j'imagine, très facile, mais j'ai l'impression que vous abordez ça avec sérénité, ou peut-être que vous n'avez pas encore été confronté à des vagues organisées.
Personnellement, j'ai pas subi de vagues.
Voilà. Mais j'ai bien noté que vous étiez finalement, et c'était d'ailleurs une question dans le public, vous étiez plutôt plus sensible à de l'agressivité qui vient de l'intérieur du monde catholique et qui vous met en question dans votre foi, finalement. Alors, puisqu'on parlait de cette question de l'intérieur du monde catholique, moi j'en ai une, hein. Comment vous faites pour sortir? Parce qu'en fait, au fond, on voit bien, moi je parlerai aussi de mon expérience de journaliste et de directeur de rédaction dans la presse catholique, on a toujours tendance finalement à vouloir s'adresser à un public éloigné, et à la fin, on s'adresse à un club. Voilà. Alors, comment vous gérez ça pour pas être encore un de plus qui s'adresse, ou une de plus, qui s'adresse à un public qui a les codes et qui donc comprend et complice, mais la dimension missionnaire, elle passe au second plan.
Moi, je répondrais deux choses. C'est que déjà, les gens sont très curieux sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas forcément envie de voir que des choses qui correspondent à leur univers. Donc en soi, c'est pas, ça va quand même intéresser des gens, même s'ils ne sont pas catholiques. Donc voilà. Et deuxièmement, c'est vrai que ça peut être aussi bien d'avoir des contenus qui sont plus inclusifs. Et par exemple, moi je me suis lancée l'année dernière à faire des lives, donc c'est des interviews en direct sur les réseaux sociaux. Et j'invite des gens sur des thématiques qui m'intéressent, c'est très varié. J'ai fait des choses autour de l'habillement, autour du célibat, j'ai fait même des choses un peu plus catholiques comme garder la foi malgré des épreuves ou des violences intrafamiliales, comment réussir à les dépasser. Mais les intervenants que je recevais qui ont tous été catholiques, je leur ai dit, ce qui serait bien, c'est que le message soit accessible sans forcément mettre le mot foi directement, mais essayer de transmettre un message qui puisse être audible à des gens en n'utilisant pas forcément du vocabulaire catholique et en ne forçant pas forcément trop sur l'aspect foi. Et voilà, ça peut être une manière d'attirer les gens au début, et puis après m'être ponctué de petits rappels de foi, mais peut-être parfois du contenu un peu plus ouvert aussi.
Je pense que la question se pose différemment selon qu'on soit vraiment un influenceur et un média. Alors la limite est, c'est pareil, c'est toujours difficile de définir la limite, puisque moi l'année dernière j'étais seul sur mon projet, donc j'ai toujours dit le terme média parce que je savais que ça pouvait évoluer comme ça va évoluer cette année avec une équipe qui va se constituer. Mais comme j'étais tout seul, les gens disaient influenceur, quoi. L'influenceur, je pense qu'il a la caractéristique aussi d'être suivi, pas uniquement pour son contenu, mais pour la personne qu'il est, parce qu'il incarne quelque chose, les gens se reconnaissent en lui, l'apprécient. Et donc, c'est plus facile, je pense, de suivre un influenceur catholique sans être catholique, parce que notre contenu peut un peu varier, il y a des trucs qu'on peut se reconnaître sans que ça soit forcément catholique, etc. Quand on produit du contenu exclusivement catholique, ce qui est donc, du coup plutôt mon cas, c'est certain qu'il y a ce danger, et je l'ai vu au fur et à mesure de l'année, mais c'est vrai qu'on a tendance à savoir que notre audience, notre audience la plus fidèle, c'est quand même des catholiques, parce que s'abonner à une chaîne catholique, c'est un move de catholique déjà, c'est quelque chose, c'est difficile de s'abonner à une chaîne catholique quand on ne l'est pas. Donc je pense qu'il faut toujours, et ça va être moi un des objectifs de cette année pour Amen, par exemple ne pas jargonner la charité, par exemple. La charité, ça parle à un catho, ça ne parle pas forcément à quelqu'un qui n'est pas catho. Donc c'est réexpliquer, refaire de la pédagogie, et c'est pas grave si notre audience est catholique, c'est pas grave, ça fait des rappels, ça dit aussi comment expliquer ces termes-là, comment parler à un non-croyant. Et au-delà de ne pas adopter un ton trop catho, pas tout prendre pour acquis, je fonctionne aussi beaucoup par vidéo. me dire ma cible est large. Donc même si mon audience, enfin mes abonnés sont plutôt catho, bah je sais que telle vidéo, elle sera plutôt faite pour, je sais pas, les cathos un peu franchouillards, voilà, qui aiment les cathédrales, machin. Mais une autre, bah, elle sera faite pour justement plus voyager et pour toucher un public différent. C'était le cas, par exemple, pour le sport, avec le cyclisme, etc. Donc on peut aussi fonctionner par contenu et se dire, c'est pas grave si notre fonds de commerce, entre guillemets, c'est d'abord des catholiques, et après, par vidéo, on va toucher un public différent.
J'ai noté que vous vouliez passer, si j'ai bien compris, de influenceur à média. J'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, que vous nous expliquiez. Est-ce que vous voulez devenir une sorte de Hugo Décrypte Cato ? C'est ça le projet ? C'est quoi la différence entre influenceur et média pour vous ?
Alors Hugo Décrypte, c'est un jeune qui a fait Sciences Po et qui a commencé à faire des vidéos où il parlait d'actualité. Et aujourd'hui, justement, toute une équipe s'est joint à lui. Donc ils sont toute une équipe, mais sous le nom Hugo Décrypte, qui continue d'incarner son image. Moi, l'idée, c'est donc d'être vraiment un média, parce qu'on est plusieurs, donc c'est de fonctionner un peu comme un média, mais avec vraiment une incarnation. Je crois qu'on est dans vraiment le temps des influenceurs. Les gens ont ce besoin d'identification. Donc, on sera 10 à travailler, par exemple, dans l'équipe l'année prochaine. On va être 3, en principe, à passer à la caméra. Et le but, c'est que les gens apprennent à connaître les personnes qui leur parlent, qu'ils puissent s'identifier à ces personnes, qu'ils puissent les apprécier aussi. Donc, il y a toujours cette volonté d'incarner. Et ça, je pense que ça fait partie des codes de notre temps, quoi.
Sur la dimension média, c'est une question qui est posée par le public sur la vérification de l'information. La com et l'information, c'est pas la même chose. Comment vous voyez ce mélange des genres ou pas mélange des genres ?
Oui, c'est souvent la question qu'on aborde, cette différence entre information et communication. Effectivement, communication, on a cette notion, logiquement, de stratégie qui va être derrière. Et information, comme son nom l'indique, on doit relater des faits. Mais quand même, derrière ce mot information, quand on prend la racine latine, on retrouve quand même le verbe façonner. Donc cette frontière déjà entre communication et information, elle est ténue. Et pour revenir, cette différence entre média et influence, je dirais que média, effectivement, on a une équipe peut-être qui est derrière, que l'on ne va pas retrouver fatalement derrière ce terme d'influenceur. Et je dirais que un influenceur, oui, il livre des contenus. Un média aussi livre des contenus. Mais quand on passe à ce statut média, on doit livrer des contenus plus fiables, on doit vérifier les sources. Et j'ai lu un article aussi récemment, justement sur la carte de presse. Il y avait un article qui disait, est-ce que la carte de presse, par rapport à la place de plus en plus importante que prennent les influenceurs, est-ce que la carte de presse est vouée à disparaître ou pas ? Donc je pense qu'effectivement, il y a toute une réflexion aussi à avoir sur le devenir du métier de journaliste, qui en plus se digitalise de plus en plus aussi. Puisqu'on a la plupart de nos grands quotidiens qui sont aussi bien sur format papier que sur format numérique, ou même qui font disparaître le format papier pour se concentrer entièrement au numérique. Donc la frontière... Mais c'est vrai que les étudiants me parlent très souvent, en tout cas quand eux me disent on sait telle ou telle information, ils passent par Hugo Décrypte par exemple. Cette génération 18-20-22, ils passent beaucoup par ce genre de médias.
Je pense que c'est un vrai sujet. La limite entre information et communication, entre ce qui est de la communication et ce qui n'en relève pas. Par exemple, aujourd'hui, il y a une crise politique, mais qui est aussi due au fait que les gens ont l'impression que les politiques ne font que de la communication et que même leur stratégie, leur politique, c'est de la communication, c'est de l'influence. C'est-à-dire que la communication n'est plus juste un moyen, mais ça se dilue avec la stratégie. En fait, on crée des lois, des choses comme ça, pour créer de l'influence, pour influencer les gens. Voilà. Là, dans le cadre d'un média catholique, c'est un petit peu différent. Alors moi, je dirais peut-être média d'évangélisation. On fait moins d'actualités chaudes, mais si, quand on en fait, évidemment, on essaie de vérifier que ça soit fiable, etc. On ne sort jamais des choses de nous-mêmes. Maintenant, il y a un parti pris qui est celui de la foi. Donc, l'information, il y a le vrai et le faux. La foi, il y a la vérité, il y a croire, il y a ne pas croire. Donc c'est déjà un parti pris de croire. Donc forcément, enfin, les gens diront que c'est pas forcément la vérité, bah, s'ils n'y croient pas. Moi j'y crois, donc je sais que c'est pour ça qu'on est vraiment à la limite entre la communication et, et le juste média factuel qui va relayer des informations. Donc voilà, on a ce parti pris qui est de croire et de croire aussi à la beauté de l'Église et de vouloir la diffuser. Donc c'est sûr que moi je communique la beauté de l'Église. Maintenant, quand il y a eu des affaires de pédophilie, etc., je me suis dit, j'ai hésité au début à communiquer dessus parce que je me suis dit, est-ce que c'est ma mission ? Moi je suis là pour parler de ce qui me fait vibrer dans l'Église, parler du Christ. Est-ce que je me dois de parler de ce qui est horrible aussi dans l'Église ? Et finalement, j'ai fini par le faire. Alors voilà, j'en ai peut-être pas fait des réels non plus parce que ça m'amuse pas de travailler là-dessus. Mais je me suis dit, c'est aussi une honnêteté par rapport aux gens qui nous regardent, de leur dire, voilà, l'Église est belle, mais c'est vrai qu'il y a aussi ça. Et si je cache ça, mon discours de beauté de l'Église, il a plus de sens non plus parce que j'omets toute une partie de l'Église. Donc j'ai choisi de communiquer dessus, de dire les faits. Et voilà, je pense que ça fait partie aussi c'est un travail de vérité, quoi.
Florian, vous aborderez les sujets qui fâchent, les sujets difficiles, les problèmes qui arrivent parfois dans l'Église, on le sait, par exemple la question des abus que vous évoquiez.
Moi, je n'ai pas du tout la même ligne éditoriale, comme on dit, que Paul. Je ne suis pas du tout sur l'actualité. Après, ça peut m'arriver de parler de sujets ça me tient à cœur personnellement, mais là, je trouvais que ce n'était pas du tout ma place de parler de ça. Et on a eu la chance d'avoir énormément de bons influenceurs qui m'ont fait sur le sujet. Maintenant, après, moi, par exemple, dans les petites vidéos humoristiques que j'ai faites, il y a des personnages qui ont un peu des comportements de pharisiens. Donc, c'est ma manière à moi de parler des choses qui fâchent. Mais sinon, je ne suis pas un média d'actualité catholique, donc voilà.
L'actualité n'est pas du tout le centre. On fait très peu d'actualité chaude, mais simplement, comme on a un format, ça dépend vraiment des lignes éditoriales. Je pense que toi, en effet, tu n'as pas, je pense, à communiquer là-dessus. Nous, on a donc un format, chaque semaine, on reprend 3-4 actus de l'Église catholique. Donc forcément la question s'est posée, même si l'actualité chaude n'est pas du tout notre truc. Quand on relaie l'actualité de l'Église, on passe des bonnes, on dit ce qui est beau, et aussi on dit que les chrétiens sont persécutés, etc. Il faut aussi dire quand il y a des choses plus sombres.
Il y a plusieurs questions. Je ne sais pas s'il y a des candidats influenceurs dans la cathédrale, mais il y a plusieurs questions assez concrètes sur notamment votre modèle économique, parce que c'est du temps, parfois c'est beaucoup de temps, parfois c'est tellement de temps que ça devient presque un temps plein chez certains influenceurs, évidemment avec des revenus qui sont liés souvent quand il y a une communauté importante. Alors, plusieurs questions, est-ce que ça va devenir votre métier, votre gagne-pain? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Enfin, comment vous vous situez par rapport à cette question?
Alors, déjà, je pense qu'il faut différencier les médias, notamment YouTube. On peut monétiser les vidéos en fonction des vues. On a des revenus qui viennent. Et après, surtout ce qui est TikTok et Instagram, les revenus vont plutôt venir de collaborations commerciales à travers des placements de produits. Sur mon cas personnel, c'est vrai que donc moi je fais beaucoup d'humour, de fiction, etc. Et en ce moment je suis un peu en réflexion justement sur le fait de me professionnaliser dans ce domaine-là. Et effectivement, si on a envie d'avoir une profession de comédien, etc., les réseaux sociaux sont une caisse de résonance essentielle pour gagner en visibilité et se démarquer dans un secteur qui est ultra concurrentiel. Mais sinon, pour plein d'autres domaines, ceux qui font de la cuisine, il y en a qui vont finir maintenant dans les émissions style Top Chef ou qui vont sortir leur livre de recettes parce qu'ils ont gagné une audience Et c'est vrai que bah, si toi un jour tu veux aussi, je sais pas, créer quelque chose qui est dérivé de ton activité, c'est vrai que le fait d'avoir des abonnés, bah, ça permet déjà d'avoir des clients ou alors de gagner en crédibilité pour avoir des opportunités business. Voilà. Maintenant, sur ce qui est de l'argent directement via les réseaux sociaux, c'est la monétisation et les collaborations commerciales. Moi, j'en fais quelques-unes, mais ce n'est pas un gagne-pain.
Paul, j'ai noté que vous parliez de 10 personnes qui allaient travailler
tous
sur
bénévoles.
Amen. Ah, tous bénévoles. Tous la précision est importante.
Oui. Moi, j'ai commencé ce projet en habitant chez mes parents. J'habite toujours chez mes parents. Oui, je suis petit. J'ai ce confort-là et j'avais fait des stages, donc j'ai commencé déjà avec un petit peu d'argent sur mon compte en banque pour tenir l'année. C'est pas du tout un projet qui avait vocation à être financé au départ. Enfin, d'ailleurs, toujours aujourd'hui, il n'a pas de modèle économique à proprement parler. C'est voilà, comme je disais à soi étudiante, c'est un peu sur le temps libre de chacun. C'est un truc qu'on ferait comme on s'engagerait, je sais pas, dans une asso solidaire ou un truc comme ça. On a du temps à donner, on veut le donner aux crises gratuitement, donc on le fait. On a eu quelques sources de revenus par YouTube, mais ça représente... Donc on a été monétisé à partir de janvier, et depuis on a fait 1 500 €. Alors ça fait beaucoup d'argent de poche, mais quand on travaille dessus nuit et jour, même le week-end, c'est assez dérisoire. Enfin, en stage, j'aurais gagné la même chose en 2 mois. Voilà, donc il n'y a pas ce modèle économique, et je trouve ça bien aussi. Alors peut-être que la question va se poser aussi, parce que là je vais arriver, c'est ma dernière année d'études, donc peut-être que je réfléchirai différemment quand je travaillerai à côté. Je ne compte pas pour l'instant en faire mon métier. Mais pour aborder un petit côté éthique, je trouve ça bien aussi de pas chercher le financement, parce que c'est... le terme influenceur, il est connoté notamment à cause des influenceurs de télé-réalité, etc., qui passent leur temps à vendre des produits, à vendre n'importe quoi, etc., des produits qui viennent de Chine, qui sont mauvais pour la santé, enfin voilà. Ça, c'est quelque chose, en fait, où l'influence est utilisée uniquement à but commercial. L'avantage de ne pas avoir cette question économique, c'est l'influence, on l'exerce pour influencer au nom du Christ. Enfin, en fait, on est vraiment les relais du Christ et on n'a pas cette dimension commerciale. Maintenant, si jamais j'avais des partenariats éthiques, des missions catho qui proposaient un peu de financement pour leur donner un peu de visibilité, je pense que je le ferais. Mais c'est vrai qu'en tant que catholique aussi, en tant que producteur de contenu catholique, on ne peut pas faire la promotion de n'importe quoi, les jeux en ligne, parce que c'est ce qui fait beaucoup, en partenariat. Mais je ne me vois pas faire une vidéo sur la déconnexion pour dire à tout le monde d'enlever son téléphone pendant le carême, et puis après, au début de la vidéo, faire une pub pour un jeu sur téléphone. C'est une cohérence.
Je comprends, mais il y avait une question dans le public qui était assez précise sur quelle est la pérennité à long terme de votre présence sur les réseaux sociaux si justement il n'y a pas ce modèle économique. Et du coup, est-ce que vous n'êtes pas condamné à jouer en amateur dans un univers qui est un univers peut-être de requins, en tout cas de professionnels qui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de financement? Et du point de vue qui est le nôtre ici au Congrès Mission, du coup, est-ce qu'on n'est pas quand même condamné à une certaine marginalité malgré tout, même si vous avez fait tout ce qu'il faut pour employer les codes de notre époque, parler le langage des gens, aller sur les réseaux où sont les jeunes de votre génération? Malgré tout, ça ne va pas durer parce que, vous l'avez dit, je ne compte pas forcément en faire mon métier.
Oui, c'est un risque, et je pense que tous ceux qui ont un peu travaillé dans l'église, notamment dans la communication, voit qu'il y a souvent beaucoup de bonne volonté, mais il n'y a pas forcément toujours la qualité ou l'exigence, la qualité de travail qu'on aimerait avoir. C'est peut-être un risque en faisant tout en bénévole. Maintenant, je pense que c'est aussi quelque chose qui se transmet. Moi, j'espère que mon projet va être aussi l'occasion pour certains de se former et qu'il y ait une forme de passation qui se fasse, que je puisse transmettre, moi, ce que je connais de la communication parce que je suis formé pour, aux gens qui vont travailler avec moi. C'est aussi une exigence à avoir sur les contenus qu'on poste, et pas se dire C'est parce qu'on est bénévole, on peut faire moins bien. Je pense qu'il faut responsabiliser tout le monde en disant, d'accord, on est bénévole, mais si on ne fait pas du contenu professionnel, si on ne fait pas du contenu de qualité, les gens ne vont pas regarder et ça va presque plus desservir l'église si on fait des vidéos qui ressemblent à ce qu'on faisait dans les années 2000. Quoi.
Je pense aussi qu'il y a la question du mécénat qui est importante, qu'il ne faut pas avoir de tabou forcément avec l'argent. Je pense que chez les protestants, il y a peut-être plus la culture d'aller chercher de l'argent. Et je sais que c'est quelque chose qui se développe. Il y a des organismes comme le Fonds du bien commun qui financent des projets chrétiens ou de bien commun. Et donc, on peut aussi être appuyé par des organisations.
Moi, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que nous, quand on a relancé la deuxième saison, entre guillemets, là, on a quand même ouvert une cagnotte Tipeee. Donc, on est quand même ouvert aux dons. Enfin, ça sera jamais pour rémunérer les gens parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire, mais c'est plus pour faire des petits achats de matériel par-ci par-là, dédommager un voyage si on va faire un reportage ou quelque chose comme ça.
Il faut beaucoup d'argent, non, pour réussir dans ce monde de requins?
Je pense, mais il me semble, enfin, quand on voit aussi Bruno Le Maire par la loi qui encadre de plus en plus le revenu des influenceurs, on a aussi de plus en plus aussi de jeunes, entre guillemets, qui se penchent en tout cas de plus en plus sur les questions éthiques. Moi, je le vois notamment dans mes cours. Aujourd'hui, on a des jeunes, ils ne vont pas faire un métier qui va fatalement rapporter de l'argent, mais ils cherchent vraiment de la valeur au sein du travail. On est sur une génération qui va chercher du sens à tel ou tel travail et qui vont essayer d'allier vie personnelle et professionnelle. Donc je pense que le côté éthique, il est très important. Et alors effectivement, c'est sûr qu'on n'est pas face, comme vous avez dit, aux candidats et candidates de télé-réalité dans leur sublime villa à Dubaï. Mais on voit qu'en tout cas, cette vision-là, elle commence en tout cas, enfin, c'est à mon point de vue personnel, je trouve que ça commence à avoir de moins en moins d'impact, cette vision-là des influenceurs, et qu'on a des personnes qui cherchent en tout cas de plus en plus un message au sein des réseaux sociaux numériques. Et ce côté éthique se développe de plus en plus, c'est ma sensation.
Donc c'est très, très encourageant.
Je pense.
Qu'il y ait ces attentes et ces valeurs parmi vos étudiants dans la jeune génération. Vous avez un conseil pour terminer à donner à ceux qui voudraient se lancer ?
Je pense que parler c'est bien, faire c'est mieux, et que si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à vous lancer et à essayer. Puis si ça marche pas, vous pouvez essayer autre chose, vous pouvez demander des conseils aux influenceurs qui vous plaisent, peut-être qu'ils vous répondront. En tout cas, nous, je pense qu'on est open, donc allez-y, il y a de la place.
Il y a un club des influenceurs, Cato ?
Il y a un réseau qui a été créé par le frère Paul-Adrien, effectivement, qui regroupe des influenceurs chrétiens, et justement, c'est aussi l'occasion de prendre des conseils ou de s'entraider.
Moi, je dirais, si vous avez ce projet dans le cœur, si ça vous tente, ne perdez pas l'objectif final qui est le Christ, quoi. Priez, discernez, et c'est un combat, hein, c'est un combat de se dire que ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'on va chercher, quand on poste un contenu, qu'on a travaillé des heures sur une vidéo, on a envie que ça marche, on a envie de voir des chiffres qui montent, etc. Alors que c'est pas forcément les chiffres qui vont faire qu'une personne a été touchée. Il faut garder vraiment la motivation, il faut que ça soit que potentiellement il y a une personne qui a été touchée et que potentiellement ça va la pousser à aller se confesser, à aller à la messe, etc. Donc il ne faut pas perdre cet objectif de vue qui est vraiment de témoigner et se dire qu'on est influenceur, mais que l'influenceur c'est avant tout le Christ et que nous on est des disciples. Donc voilà.
Eh bien, un grand merci à tous les trois. Merci aussi à chacun d'entre vous, parce qu'il y a eu pas mal de questions, toutes très intéressantes. J'ai essayé de reprendre la plupart d'entre elles d'une façon ou d'une autre. Pardon à ceux dont la question n'a pas été relayée, parce qu'il fallait aussi qu'on s'inscrive dans le fil de notre conversation. En tout cas, merci pour vos questions qui étaient stimulantes et très intéressantes.
Oui, merci beaucoup, Floriane, Lise, Paul, et puis vous, Monsieur Jean-Pierre Denis, pour la qualité de cette table ronde. Donc, Nos échanges s'achèvent maintenant, mais on va laisser la place pour la messe dominicale qui a lieu donc à 10h30 avec le père Vincent Durour. Sachez que le congrès, bien sûr, continue. Donc, vous êtes invités à poursuivre peut-être auprès des ateliers qui ont lieu donc à Saint-Stanislas. À 13h30, il y aura un temps de louange ici même. Puis la messe donc, de clôture, hein, la plénière à 14h. Non, pardon, la plénière de clôture à 14h et la messe d'envoi à 15h. Voilà, donc bonne suite à chacun d'entre vous. Bon congrès mission et bienvenue aux paroissiens de Saint-Étienne.